Chers bien-aimés, nous allons parler du plan et du message du livre d'Exode. Le livre commence par une sorte de prologue, le premier et deuxième chapitre, qui parle du peuple d'Israël qui est béni mais à la fois aussi opprimé. Et cela, c'est l'accomplissement de Genèse 12:2 dans lequel Dieu a dit à Abraham, en effet, que ses descendants vont s'accroître mais seront plutôt opprimés en Égypte. Mais c'est dans ce contexte que le libérateur est né, Moïse, qui est un bébé épargné, mais en danger. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit au chapitre 11, verset 23, « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. » Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux aussi nous parle de la fuite de Moïse quand il a grandi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alors, c'est pendant la fuite de Moïse de l'Égypte vers le désert que Dieu l'appelle. L'appel de Moïse est fait à travers l'apparition théophanique de Dieu, le buisson ardent qui brûle sans se consumer, il faut enlever les herbes, qui brûle sans se consumer. Alors, et puis Moïse est ordonné d'enlever ses chaussures car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. En réalité, ce n'est pas la terre sur laquelle Moïse se tient qui est sainte. C'est la présence du Dieu qui est descendu, qui sanctifie l'espace où Moïse se tient. Le Dieu qui appelle Moïse s'identifie comme le Dieu de ses pères Abraham, Isaac et Jacob. Moïse cache le visage terrifié par l'apparition du Dieu de ses ancêtres. L'apparition du Dieu des ancêtres confirme à Moïse que les histoires et traditions reçues de ses ancêtres n'étaient pas des fables. Dieu se présente à Moïse comme le « Je suis qui je suis » Exode 3,14. Est-ce un refus de Dieu de se présenter ou est-ce la révélation de sa nature? Alors, là maintenant, on va voir, le livre parle des réticences et la soumission du libérateur, Moïse, qui ne veut pas du coup prendre la responsabilité de libérer le peuple de Dieu, mais quand il accepte, il commence pas par la réussite, c'est plutôt l'échec, parce que le pharaon durcit encore l'esclavage, et puis c'est dans ce contexte que Dieu renouvelle la promesse de la délivrance. Et c'est quand Moïse va vers le peuple, au 6e chapitre, qu'il est reconnu et que maintenant commencent les plaies contre l'Égypte. Alors, il y a d'abord le renouvellement de l'appel du libérateur, les signes de l'autorité de Dieu, et puis la première plaie, l'eau est changée en sang en Égypte. Et puis la deuxième plaie dont Dieu frappe l'Égypte, ce sont les grenouilles qui remplissent toute la terre de l'Égypte. Et puis les poux maintenant, après les grenouilles, ce sont les poux, après ce sont les mouches venimeuses. Et puis la cinquième plaie, c'est la destruction des troupeaux des Égyptiens. Et puis les ulcères et la grêle, les sauterelles, les ténèbres. Et finalement la dixième plaie, c'est la mort des premiers égyptiens, hommes et animaux, et ça c'est une plaie grave qui a détruit l'Égypte. Les 10 plaies constituent une sorte de théomachie, il faut enlever les S, théomachie c'est la guerre entre les dieux, dont le but est de prouver la supériorité du Dieu d'Israël sur les dieux de l'Égypte, sur les dieux de toute la terre. De toutes les plaies, la 10e est la plus forte. La mort des premiers-nés égyptiens, elle ouvre la voie à l'instauration de la Pâque et de la consécration des premiers-nés israélites à Dieu. Alors, la Pâque, le mot Pâque, vient de la racine hébraïque Passa, qui signifie passer outre, épargner. L'agneau pascal immolé meurt en remplacement non seulement des premiers-nés israélites épargnés par l'ange destructeur, mais aussi pour l'ensemble de la nouvelle nation en formation en Égypte. Alors, Il y a après cela la sortie de l'Égypte, la consécration du premier-né d'Israël, la traversée de la mer Rouge. La mer Rouge était en réalité la mer des roseaux, la traduction de l'hébreu Yamsouf, mer rouge et tronquée, la destruction de Pharaon et de toute son armée met fin à la vengeance du Seigneur contre les ennemis de son peuple. Quand on parle de la mer Rouge, c'est plutôt la mer de roseaux. Il y avait une petite difficulté ou encore erreur de traduction de souf. C'est le rouge, mais aussi en hébreu, c'est le roseau. La délivrance du peuple de l'Égypte réalise la promesse divine faite à Abraham dans Genèse 15, 13 à 14. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et sortiront ensuite avec des grandes richesses. » Alors, la délivrance est suivie du cantique de délivrance, le cantique de délivrance entonné par Myriam, la grande sœur de Moïse, et chanté par l'ensemble du peuple. Ce cantique est probablement le premier texte biblique mis par écrit par Moïse pour préserver la mémoire de la délivrance du peuple par la main puissante du Seigneur, son Dieu. Le chant exprime la foi du peuple en Yahvé. Le contenu du chant se concentre exclusivement sur Dieu au point que le nom de Moïse n'y est même pas mentionné. Ceci représente un contraste clair avec la littérature des nations voisines d'Israël qui célébraient les exploits de leurs héros militaires. En Israël, le chant d'Israël ne félicite pas Moïse, mais plutôt félicite ou encore honore le Seigneur qui a délivré le peuple. Alors, tout de suite vient la marche vers la montagne des Sinaï, mais cette marche sera entachée de murmures et de rébellions dans le cas des eaux de Mara, la Manne et les Cailles, les eaux de Meriba, pendant la guerre contre Amalek. Et c'est pendant ces temps que Moïse va organiser le peuple au chapitre 18e. La marche du peuple nouvellement délivré de l'Égypte est marquée par la série miracle, rébellion, menace du Seigneur. Ce cycle culminera malheureusement par la très grande rébellion du veau d'or au chapitre 32. Alors, l'alliance est conclue entre Dieu et son peuple d'Israël au Sinaï dans les chapitres 24. Donc au chapitre 19, c'est la proposition de l'alliance, la réaction du peuple à la présence glorieuse de Dieu. Le peuple a peur, le peuple demande que Dieu lui parle à travers Moïse au lieu de lui parler directement. L'alliance conclue par Dieu avec son peuple à la montagne des Sinaï marque l'accomplissement des promesses faite au patriarche et la mutation d'Israël d'un groupe tribal à une nouvelle nation. Et c'est à travers de cette nation que Dieu transformera l'ensemble de l'histoire universelle. Vient alors ce qu'on appelle décalogue. Le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements, comporte deux grandes parties. La première partie, qui va de Exode 20, 1 à 11, régule la propre adoration du Seigneur, interdiction de l'idolâtrie, de la prononciation du nom de Dieu en vain, de l'observation du sabbat. La deuxième partie régule les relations sociales, respect des parents, prohibition du meurtre, de l'adultère, du vol, du faux témoignage, de la convoitise. Le non-respect du décalogue ne va pas sans conséquences néfastes pour le coupable, aussi bien au niveau individuel que communautaire.